Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Il est midi à Kinshasa, 13h à Uvira au sud Kivu. Bienvenue, voici les titres de ce journal. Nord Kivu, une accalmie signalée jusqu'à ce jeudi matin sur différentes lignes de combat qui opposent depuis près de 10 jours des groupes armés locaux aux rebelles du M23. Plusieurs sources parlent de la présence des redéploiements des FARDC à Kichanga dans les territoires de Masisi, mais l'armée ne l'a pas encore officiellement confirmé. Au sud Kivu, un cas confirmé et 3 autres cas suspects de la maladie de variole de singe ou monkeypox détectés et suivis dans la ville de Bukavu depuis 3 jours. Les autorités sanitaires demandent à la population d'observer des mesures d'hygiène et de signaler tout cas suspect qui présente les signes. L'invité de ce journal est l'administrateur gestionnaire du centre hospitalier neuropsychiatrique de Goma qui totalise 30 ans au service de la population de l'Est de la RDC. Anissé Mouroami parle des conditions de travail à ce centre de Goma, communément appelé santé mentale. Mesdames, Messieurs, bonjour. Au Nord Kivu, une accalmie est signalée jusque dans la matinée de ce jeudi sur différentes lignes de combat qui opposent depuis près de 10 jours des groupes armés locaux aux rebelles du M23. C'est notamment dans la zone de Bouiza et autour de Kiwanja dans les territoires de Rutshuru. Plusieurs sources parlent de la présence des redéploiements des FARDC à Kichanga en territoire de Masisi, même si l'armée ne l'a pas encore officiellement confirmé. Des détails avec Bernard Denyangui.
Cette accalmie est constatée notamment dans le groupement de Bichoucha après de violents affrontements presque tout l'après-midi hier dans certains villages comme Chongi et Rosekera. La coalition de groupes armés locaux qui occuperait déjà le chef-lieu de ce groupement et d'autres villages n'auraient pas pu avancer vers Bouiza où les rebelles du M23 seraient toujours concentrés et mêlés aux milliers de civils, membres de familles et d'éleveurs, indiquent plusieurs sources locales. Quant à la cité de Kichanga, dans le territoire de Masisi, les activités reprennent après un peu plus de 48 heures d'accalmie. Plusieurs sources locales parlent de la présence des FARDC dans cette cité stratégique. Ces derniers s'y sont déployés depuis déjà 2 jours, disaient ces sources. Cependant, le porte-parole du gouverneur dément toujours. Pour le lieutenant-colonel Guillaume Ndjike, l'armée continue à observer le cessez-le-feu et ne peut se retrouver à Kichanga. Nos sources ajoutent par ailleurs qu'à Kiwanja dans le Rutshuru, les activités reprennent également timidement ce jeudi matin après des affrontements entre 14h et 16h locales hier, toujours entre les groupes armés locaux et les rebelles du M23. C'était entre Kinyandoni et Nkwenda, à environ 7 km de cette agglomération. Goma, Bernard Nyangi, Radio Kapi.
La tenue des élections dans les zones occupées par les M23 s'avère à ce jour hypothétique. L'élu de Masisi, Jules Mugiraneza, affirme, je cite, « Pour Masisi et Rutshuru, tout dépendra de l'évolution de la situation sécuritaire de notre pays. Nous allons donc attendre que les conditions soient réunies pour que nous nous mettions en mouvement, le cas échéant. » Fin de citation. L'élu de Masisi l'a dit hier mercredi à Kinshasa, à la sortie des échanges entre la délégation des députés nationaux de Masisi et de Rutshuru dans le Nord Kivu et le premier vice-président de la Commission électorale nationale indépendante. Les élus de ces deux territoires sont en proie à une situation de sécurité n'ayant pas permis l'enrôlement des électeurs. On écoute ici le député national Jules Mugiraneza au micro de Michel Kifindangoy.
Vous savez qu'il est prévu que les élections aient lieu le 20 décembre de cette année, c'est dans 2 mois, et nous n'avons pas encore de réponse exacte pour savoir si Rutshuru et Masisi seront concernés par le processus électoral. La population a des désirs profonds et légitimes de se faire enrôler pour détenir le droit comme les autres peuples congolais. Mais quand ils nous posent des questions, nous n'avons pas de réponse. Ça nous embarrasse. Nous-mêmes, nous demandons si nous irons aux élections, s'il faut nous préparer. Ça nous stresse. Et au regard de tout cela, nous avons pensé que la porte indiquée, c'était d'échanger avec le responsable de la CENI, l'organe qui pilote les élections. Nous avons fait des échanges fructueux. Ils ont été attentifs. Ils nous ont même prodigué des conseils. Et je crois que nous nous réjouissons d'avoir été avec eux aujourd'hui. C'est le souhait et le désir profond de la CENI. Mais tout ne dépend pas de la CENI et nous avons compris cela. Au départ, c'est lié à un problème de sécurité.
À Uvira, au sud Kivu, le commandant de la 3e zone de défense des FARDC a clôturé hier mercredi sa mission d'inspection et de commandement dans le secteur opérationnel Sokola 2 au sud de la province du sud Kivu. C'est le deuxième passage du lieutenant-général Marcel Mbangou Machita dans cette région d'Ouvira et de Fizi Tombwe. Il est allé là-bas pour s'enquérir personnellement de l'état d'avancement des ordres qu'il avait donné aux hommes des troupes et aux commandants des grandes unités des FARDC. D'après son porte-parole, le major Nestor Mavoudissa, les militaires au front ont été réconfortés par sa présence. Des détails avec Fiston Goma.
La situation sécuritaire est sous contrôle des FARDC dans les secteurs sud-sud. Ce constat a été fait par les commandants de la 3e zone de défense à la clôture de sa mission à Uvira. La semaine dernière, des attaques contre des positions des FARDC dans le haut plateau de Minembwe étaient suivies des accrochages entre les troupes loyalistes et les combattants Turwaneo. Les porte-parole de la 3e zone de défense, le major Nestor Mavoudissa, rassure que le militaire FARDC se comporte bien sur le terrain et exécute sans faille les ordres leur donnés.
Les forces armées de la République démocratique du Congo, c'est une armée loyale, républicaine, respectueuse des textes. Il y a un programme lancé par le chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République, le programme de PDDRCS. Donc, ceux qui veulent être en ordre avec l'État congolais ou la nation doivent adhérer à ce programme. Il y a des rendus que nous avons reçus au niveau de Bukavu, qui sont venus juste de ce même groupe armé, plus précisément de Minembwe, c'est ce que nous encourageons. Nous lançons encore cet appel à ceux qui traînent le pas, qu'ils puissent venir. Nous allons le recevoir pour qu'ils adhèrent à ce programme.
Le lieutenant-général Marcel Mbangou a instruit la suppression de toutes les barrières entre Uvira et Fizi. Il s'est dit, selon son porte-parole, ne pas être d'accord avec certains miliciens répondant au nom de Wazalendo et qui érigent une administration parallèle dans le milieu d'Uvira Fizi Tombwe. D'Uvira Fiston Goma Mayaba, la Radio Okapi.
Et dans les territoires de Beni, au nord Kivu, la société civile dans la localité de Mamove, au nord-est d'Oicha, chef-lieu du territoire, dénonce la multiplicité des barrières militaires sur plusieurs axes routiers dans la région. Selon Kinos Katuo, son président, les usagers sont obligés de débourser d'importantes sommes d'argent pour tout passage à ces barrières. Il recommande la suppression de toutes ces barrières pour permettre une libre circulation de la population et de ses biens. Kinos Katuo le dit au téléphone d'André Kitengi.
Presque dans tous les territoires de Beni, les militaires et les services de sécurité ont érigé plusieurs barrières en demandant de l'argent sakitas sur les produits agricoles comme le cacao et l'huile de palme. Des motards et chauffeurs de camionnettes qui paient de l'argent sur l'axe Oicham, Mamove, Beoumanyam, Maliki et Mandumbi. Sur la route nationale numéro 4, sur l'axe Beni-Kassindi, nous sollicitons la suppression sans condition de la barrière sur la rivière Semuliki et la barrière à Boulongo-Kanyansi qui n'a pas d'importance sur la survie de la population, car plusieurs sommes sont perçues sur ces deux barrières sakitas et qui donnent beaucoup de tracasseries sur la paisible population. Ainsi, nous sollicitons la suppression de plusieurs barrières créées partout où il y a des positions militaires seulement pour demander de l'argent.
Sud Kivu, la maladie de variole de singe ou monkeypox fait son apparition dans la province. Un cas confirmé et 3 autres cas suspects sont déjà détectés et suivis dans la ville de Bukavu depuis 3 jours. Tous ces malades proviennent de la zone de santé de Kamituga en territoire de Mwenga. Les autorités sanitaires du Sud Kivu demandent à la population d'observer des mesures d'hygiène et de signaler tout cas suspect qui présente les signes de monkeypox. Docteur Claude Baïziré, médecin en charge de la communication à la division provinciale de la santé du Sud Kivu, est au micro d'Emmanuel Elamejo Kabedi.
Oui, c'est vrai, c'est confirmé. Il y a au moins 48 heures ou 72 heures. Il y a un cas qui est déjà confirmé par laboratoire. Nous avons d'autres cas, 3 cas, qui ne sont pas confirmés sur labo. Mais les signes, en tout cas cliniques, montrent que probablement sont des cas de monkeypox. Et ça fait 4 cas jusqu'à hier de monkeypox. Et tous ces cas viennent de la zone de santé de Kamituga. C'est une des maladies d'ailleurs sous surveillance en République démocratique du Congo, parce qu'il y a plus de 20 provinces qui ont des cas de monkeypox. Donc, en français, d'ailleurs, on appelle ça variole des singes. Des cas de monkeypox ne se notifient pas au Sud Kivu. C'est une maladie qu'on se contracte lorsqu'on a des contacts avec un animal malade. La maladie en soi, ça se soigne, mais c'est pas n'importe où, parce que c'est une maladie très contagieuse et peut tuer par complications. Et pour le moment, dans la province du Sud Kivu, on est en train déjà de prévoir de faire des dispositifs pour avoir un centre de traitement des monkeypox pour le site Kivu.
Et puis, début ce jeudi de la campagne de vaccination contre la poliomyélite au Kasaï oriental. La cérémonie de lancement de cette campagne a été présidée à la mairie de Mbujimayi par le gouverneur de province intérimaire Jules Kalenga Kabongo. D'après le chef de division de la santé ad intérim, plus d'un million d'enfants de 0 à 5 à 9 mois sont attendus au cours de cette opération qui prend 3 jours, soit du 12 au 14 octobre 2023. Des explications avec Esther Ndalafina.
Il fallait que cette campagne contre la poliomyélite s'organise dans la province du Kasaï oriental. De par sa définition, la poliomyélite ou paralysie infantile est due au poliovirus qui est transmis par le contact avec les excréments. La poliomyélite est une maladie contagieuse et elle envahit le système nerveux en entraînant des paralysies irréversibles. Cette épidémie a débuté en RDC le 8 mai 2017 et se poursuit à ces jours. Au Kasaï oriental, c'est depuis le 14 août 2023 que la province a notifié 20 cas dans 9 zones de santé. La zone de santé de Lukelenge vient en tête avec 4 cas, suivie de Miabi et de Mouya avec 3 cas chacune, Bonzola et Nzaba 2 cas chacune, les zones de santé de Bipemba, de Kansele, Kasansa et Chilenge ont notifié chacune un cas. La province est actuellement à l'étape d'investigation. Depuis le mois de mars dernier, la division provinciale de la santé en collaboration avec MOI a lancé une campagne de surveillance communautaire sur la poliomyélite dans la commune de Bipemba. Pour lutter contre cette maladie dans la province, le médecin chef de division provinciale de la santé souhaite l'intensification des campagnes de vaccination contre la poliomyélite. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
La CENI et la CNDH s'accordent à collaborer dans le cadre de monitorer les violations des droits de l'homme durant la période préélectorale en RDC. Au cours d'une séance de travail que les deux institutions ont eu lieu hier mercredi à Kinshasa, la Commission nationale des droits de l'homme a dit entendre de veiller au respect des électeurs et des candidats aux élections. Un protocole d'accord devra être conclu à ce sujet. Le président de la CNDH, Paul Sapou, fait la restitution de cette réunion de travail au micro de Jeff Ngoy.
Dans le cadre des enjeux qui pointent à l'horizon, notamment en ce qui concerne la CENI, la préparation et l'organisation des élections à la fin de cette année. Alors, nous avons envisagé la collaboration pour permettre à notre institution, qui est une institution auxiliaire aussi, qui peut apporter un plus dans le travail qui est fait par la CENI. Les élections, ça sous-entend aussi les droits de vote, les élections. Ça sous-entend le droit de ceux qui postulent et les droits des électeurs. Voilà pourquoi un travail de monitoring par rapport à ces droits, qui est le nôtre, devrait être pris en compte à travers un protocole de collaboration, sans chercher à empiéter sur les compétences, si vous voulez, le rôle du pouvoir organisateur des élections.
Et dans la province du Maniema, le nouveau procureur général et le premier président de la cour d'appel, récemment nommé par le président de la République, ont renouvelé leur serment hier mercredi à Kindu, en présence des autorités de la place. Ces derniers jurent de respecter la constitution et les lois de la RDC et de remplir loyalement et fidèlement avec honneur et dignité les fonctions leur confiées. Florence Kizalunga, reportage.
Après que la Cour ait pris acte de ce renouvellement du serment, le premier président de cette Cour rassure la population, Damien Epokomonga.
Le travail des magistrats est un travail de vocation, un travail qui est un sacerdoce, un travail d'honneur et de loyauté et de fidélité. Donc désormais, je prends mes fonctions à l'issue de ce renouvellement des serments. À la population, nous vous rassurons que nous sommes là, nous allons respecter avec le procureur général comme nous l'avons dit, nous allons respecter les lois et que nous allons faire notre travail, telle est la substance de notre serment.
Le procureur général quant à lui promet d'être un traumatisme permanent pour le délinquant. Didier, il est aussi Kambilé.
L'ordre public doit être observé et respecté par quiconque. Parce que la justice, il faudrait que ce soit un traumatisme, on doit traumatiser. Il ne faudrait pas que les gens se réveillent calmement, ils commettent des actes répréhensibles et ils continuent à défiler comme si de rien n'était. Ah non, là non. Les gens doivent réfléchir 1000 fois avant de commettre des infractions parce qu'il y a les lois qui sont là.
Notez que ces deux personnalités remplacent à ces postes Roger Nzewe et Nkashama Ndibitekeda, respectivement premier président et procureur général affectés ailleurs. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Capi.
Le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, PDDRSS, coordination du Tanganyika, a dressé un bilan de ses activités dans la province. Dans une matinée d'échange avec la presse hier mercredi à Kalemie, cette structure du gouvernement s'est notamment impliquée dans la résolution des conflits et la cohésion sociale entre les communautés Twa et Bantou. Détail de Paul Mounanga.
Implanté depuis juin 2022 dans la province du Tanganyika, le PDDRCS a concentré ses activités dans 4 des 6 territoires de la province. Il s'agit de Kalemie, Nyunzu, Manono et Moba. Et parmi les piliers stratégiques de ces interventions, notons la résolution des conflits ou le relèvement et réintégration communautaire. Henri Toto, chargé de la section partenariat au sein du PDDRCS Tanganyika, revient sur quelques réalisations.
On est arrivé à faire la cartographie des groupes armés. Et cette cartographie est actualisée. Parce que comme vous connaissez, les groupes armés changent souvent de lieu. On est arrivé également à élaborer la cartographie conflictuelle. Nous sommes en possession des sites de désarmement. Nous sommes aussi en possession des sites de démobilisation. Nous sommes arrivés à organiser les dialogues internes communautaire à Tumbwe Fief, à Lambokatenga, c'est toujours dans les territoires de Kalemie, à Kisunkulu, à Kasanganyemba et ici même à Kalemie Centre.
Signalons qu'en plus des activités réalisées par la coordination provinciale du PDDRCS, il y a aussi d'autres activités qui sont parrainées par cette structure du gouvernement mais financées par ses partenaires. C'est notamment les agences Fonds Programme des Nations Unies, d'autres ONG internationales et des ASBL. Kalemie, Paul Mounanga, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Sénégal, la nomination d'un nouveau gouvernement a eu lieu 5 jours après la dissolution de l'ancien par Macky Sall. C'est le premier ministre reconduit et candidat du pouvoir à la présidentielle, Amadou Ba, qui s'est chargé de faire l'annonce de ce gouvernement de la continuité. À Madagascar, la haute cour constitutionnelle est sous pression avant le scrutin de novembre 2023 avec l'héritage des 2 gros dossiers pour lesquels elle va devoir trancher le report ou non de l'élection pour cas de force majeure et la gestion par intérim du pays par le président du Sénat.
L'invité.
L'invité de ce journal est l'administrateur gestionnaire du centre hospitalier neuropsychiatrique de Goma qui totalise 30 ans au service de la population de l'Est de la RDC. Anissé Mourouani parle des conditions de travail à ce centre de Goma, communément appelé santé mentale. Il s'entretient avec Rosalie Zawadi.
Monsieur Mourouani Anissé, bonjour.
Bonjour.
Vous desservez les malades, les habitants de quelle région?
À part les patients qui nous viennent de notre province du Nord Kivu, nous recevons aussi des patients qui viennent du Sud Kivu, d'autres qui nous sont référés à partir de Bunia et d'autres de Kindu. Nous recevons aussi certains patients qui habitent Gisenyi, qui trouvent qu'aller dans notre hôpital d'Ndera, c'est très loin. Ils préfèrent traverser la frontière pour venir bénéficier des soins ici.
Les personnes que vous traitez ici viennent souvent pour quelle cause?
Pour ce moment, avec la situation que nous traversons à province, le patients que nous sommes en train de recevoir. Il y a plus de cas avec troubles liés au stress post-traumatique. Bon, avec la situation des guerres et le déplacement et la vie précaire, il y a beaucoup de cas aussi d'épilepsie. Mais les cas les plus reçus en hospitalisation, et c'est surtout la jeunesse, ce sont des cas d'alcoolisme et troubles liés à la prise de substances psychoactives. Si vous entrez même en hospitalisation maintenant, vous allez trouver que la majorité de malades qui sont en hospitalisation, ce sont les jeunes. Et plus leur pathologie, c'est soit l'alcoolisme avec la prise de boissons fortement alcoolisées, mais aussi la prise de substances psychoactives, du chavre, je sais pas, Patex et d'autres stupéfiants. Surtout, ce sont les jeunes garçons et malheureusement, des jeunes qui ont l'âge qui varie entre 14 et 25 ans, 28 ans, alors vous voyez que c'est vraiment la jeunesse.
Et pour les personnes qui souffrent du stress post-traumatique, comment est assurée leur prise en charge?
La grande partie est suivi en ambulatoire. Ce qui arrive vraiment en hospitalisation, ce sont des cas qui n'ont pas bénéficié tôt d'une prise en charge, soit d'un accompagnement psychologique ou d'un soutien au niveau de la famille ou au niveau de l'entourage. Mais le plus souvent, ce sont des cas que nous arrivons à suivre quand même en ambulatoire. On les aide pour qu'ils n'arrivent pas à développer des dépressions graves. Donc l'accompagnement est d'abord psychologique. Et pour des cas qui commencent à présenter d'autres signes comme les insomnies, comme les instabilités, comme les replis sur soi, c'est là où on peut envisager un peu de médicaments. Mais souvent, on renforce leur personnalité avec l'accompagnement psychologique qui peut les soutenir davantage pour éviter de tomber juste dans une dépression grave.
Les centres reçoivent les malades de plusieurs provinces, comme vous l'avez dit. Quelles sont les difficultés défis auxquels vous faites face?
Bon, pour le moment, vous voyez, avec la précarité que traverse notre population, nous avons beaucoup de cas que nous appelons entre guillemets des cas sociaux, qui ne sont pas à mesure de se prendre en charge et de payer leurs soins. Mais aussi, il y a un autre défi qui est très énorme avec les patients qui nous viennent, par exemple, de milliers très reculés. La restauration de ces patients pose problème parce que vous n'allez pas demander à un patient qui vous est venu du côté Massissi de rentrer toujours à Massissi et aller chercher à manger. Donc, comme le centre n'a pas de possibilité d'assurer la restauration des patients hospitalisés, ça c'est vraiment aussi un grand défi. Mais il y a aussi un grand défi qui est le soutien du gouvernement par rapport à certaines taxes. Par exemple, aujourd'hui, nous n'avons pas d'eau et nous sommes obligés d'acheter de l'eau chaque semaine au moins deux fois. Bon, le problème de l'électricité, c'est nous qui le payons. Bon, nous avons beaucoup d'argent qui ne sont pas pris en charge par l'État, c'est-à-dire par exemple des primes ou salaires de l'État. Alors tout ça, ce sont des défis. Mais aussi un autre défi majeur, c'est juste cette prise en charge-là des jeunes toxicomanes, parce qu'il faudrait qu'on ait vraiment un cadre retiré dans lequel on devait prendre en charge ces jeunes et les accompagner pour qu'ils arrivent à sortir peut-être de cette addiction-là.
En termes des perspectives, qu'est-ce que vous entrevoyez?
Vous voyez, notre centre, c'est un centre neuropsychiatrique. Nous sommes en train de penser comment développer les services neurologiques d'une manière spécifique pour que nous puissions servir vraiment des patients qui présentent des troubles neurologiques à part et les patients qui présentent des problèmes psychiatriques à part. Mais pour le moment, s'il y a des cas neurologiques graves qui nécessitent l'hospitalisation, tous sont hospitalisés ensemble. Je dirais ensemble parce que c'est le même bloc, mais de pavillons différents. Mais on voulait avoir quand même un bloc à part de neurologie. Mais aussi, comme j'ai dit, par rapport à l'addiction, on voulait aussi avoir un jour un bâtiment où on va prendre en charge spécifiquement des toxicomanes. Mais aussi, nous sommes en train de voir comment améliorer la qualité des services en apportant les soins même aux personnes les plus démunies. Et là, ça demande un appui. Donc, si vraiment, dans l'avenir, nous continuons à avoir des appuis des personnes de bonne volonté, peut-être du gouvernement ou des organisations internationales, ça peut permettre que tous les malades qui sont pauvres, qui restent dans les familles, parce que leurs familles ne sont pas en mesure de les amener à cause de moyens, ceux-là peuvent bénéficier facilement de prise en charge.
Monsieur Mourouani Anissette, je rappelle que vous êtes administrateur gestionnaire du centre hospitalier neuropsychiatrique de Goma. Merci.
Merci aussi.
C'était l'invité de ce journal, l'administrateur gestionnaire du centre hospitalier neuropsychiatrique de Goma, au Nord Kivu. Anissette Mourouani s'entretenait à Goma avec Rosalie Zawadi. Fin de cette édition du journal qui a été supervisée par Martin Sebou-Djangoué et coordonnée par Blaise Sindani Kambala. La mise en onde a été assurée par Jean-Claude Nsiala. Merci infiniment à vous de l'avoir écouté.